Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je suis content d'être avec vous. Les dimanches où il y a des week-ends prolongés, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Surtout qu'on a eu une météo. On a une météo qui est magnifique. Mais je suis sûr que vous avez fait le bon choix en venant ce matin. Parce que c'est pas un mauvais choix de sortir puis de profiter. Mais de passer du temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de magnifique que aucune réalité dans le quotidien peut vous donner. Donc ma prière, c'est pas que ce que nous on a prévu vous fasse du bien, mais c'est que la présence de Dieu vous fasse du bien. Parce que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Qui ici est déjà allé dans un événement sportif, dans un grand stade? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Montrez-moi la main. Ok, quand je dis grand stade, c'est pas le stade du coin, du village. C'est vraiment un stade là où il y a du monde qui se lève, des grands contextes. Il y en a pas mal qui ont été, il y a une ambiance, il y a tout ça. Alors je ne sais pas pour qui vous êtes, ça peut être pour le foot, ça peut être pour le hockey. Il vient d'y avoir aussi la fin des playoffs de basket, donc ça peut être aussi là-dedans en Suisse. Mais vous êtes déjà allé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait dans un pays où tu sais vraiment ça fait partie de la culture? Par exemple au Brésil dans un match de foot, ou aux États-Unis dans un match de basket ou de baseball ou football américain. C'est incroyable l'ambiance qu'il y a. Et puis une fois j'étais là-bas, puis je regardais, c'était aux États-Unis, je regardais, puis je me suis rendu compte qu'il y a trois types de spectateurs un petit peu. Les premiers spectateurs, c'est ceux qui sont tout en haut. Souvent, c'est les places les moins chères. C'est ceux qui sont tellement haut qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment regarder ce qui se passe. Ils sont trop loin. Donc, ils regardent sur cet écran qui est là, ils essaient de suivre et ils vivent à moitié le truc. Ils vivent un peu dans certaines grandes actions, tu les vois un petit peu s'enthousiasmer, mais la plupart du temps, c'est plutôt un événement social. On est avec un, deux, trois amis, c'est chouette d'être là, mais voilà. Ensuite, il y a ceux du milieu. Ceux du milieu, là, c'est un endroit assez sympa. Pour certains, c'est même une dimension quasi politique. C'est aussi dans les cercles du milieu qu'il y a les zones VIP. Donc, tu es un peu là pour le sport, mais tu es aussi là pour montrer aux autres que tu as le droit d'être là, que tu es capable d'être là, que tu t'intéresses un petit peu. Tu regardes souvent, c'est eux qui commentent aussi comme des experts, tu sais. Ah, mais si c'était moi, j'aurais fait ça à la place de ce joueur, ou bien, mais il est nul celui-ci, ou bien changez-le, tu sais, voilà, un peu ce genre de personnes-là. Et puis, à moins qu'il faille faire une hola ou quelque chose comme ça, franchement, que tu sois présent ou pas présent, ça ne fait pas une grande différence. Puis après, il y a ceux qui sont tout proches du terrain. Au basket, il y a ceux qu'on appelle courtside. Vraiment, ils sont quasiment assis sur le terrain, quasiment, c'est la prolongation du banc de l'équipe. Tu sais, c'est assez incroyable comme ils sont. Et eux, alors, il y a bien sûr ceux qui ont le luxe et le droit d'y être. Alors, ils y sont juste pour les photos. Mais il y a aussi des gens qui sont des passionnés, tu sais, des fans de chez fans. Eux, ils crient, ils ont l'impression de changer la dynamique. Ils parlent aux joueurs quand les joueurs sont proches d'eux. Ils y vont, ils vivent le truc à fond. Et si tu n'es pas tout à fait là, mais juste au 2-3e rang, j'ai été une fois dans ces endroits-là, c'est incroyable. C'est là où vraiment ça vaut la peine d'être spectateur parce que les gars ne s'arrêtent pas tout du long du match. Ils se lèvent, ils parlent, on dirait qu'ils connaissent tous les joueurs. C'est incroyable. Parfois, quand je regarde l'église, j'ai l'impression qu'il y a le même type de personnes qui fréquentent l'église. Je vais boire un peu d'eau. Il y a des gens qui viennent, mais qui sont comme très très loin de cette histoire. Ils sont là, tu ne sais pas trop pourquoi ils sont là. On a l'impression qu'ils tirent à pile ou face le matin pour savoir ce qu'ils vont venir ou pas. Ils viennent parce qu'il y aura un ami, ou, tu sais, mais ils ne sont pas vraiment concernés par ce qui se passe. Et ils se demandent, bon, combien de temps ça dure, qui va être là, comment ça va être la louange, qui va parler. Et puis, ils sont plus occupés par le gigot qui doit être prêt à midi que par ce qui se passe là. Mais ils sont quand même là, il y a une forme un peu d'habitude, de tradition. Il y a ceux qui sont là parce qu'il y a une dimension politique, c'est quand même bien d'être là. Il faut qu'on montre aux autres qu'on est là, il faut qu'on maintienne un certain statut, il faut que, voilà, on est un petit peu là, on commente un peu. Puis, il y a ceux qui sont passionnés. ces passionnés qui viennent, qui sont au premier rang, qui disent « Amen » quand le prédicateur parle, ben, à part ici à Home, mais sinon il y a ceux qui font ça. Ils sont vraiment, ils sont là, ils prennent des notes, ils sont à fond, ils y vont. Et puis, j'ai envie de te dire, qu'importe où tu en es, qu'importe où tu en es dans ta foi, qu'importe où tu te situes par rapport à ce que je viens de te dire, il y a un problème fondamental, c'est que ce n'est pas ça le cœur de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu, c'est que personne ne soit spectateur. Dieu ne t'a jamais fait en disant « j'espère que tu seras un super bon spectateur ». Et alors qu'on est dans le week-end de la Pentecôte, la réalité c'est que Jésus a donné une mission claire à tous ses disciples, qui n'encapsulaient pas du tout l'idée d'être spectateur au passage, à tous ceux qui le suivent, tous ceux qui le reconnaissent comme sauveur et seigneur, et il leur a dit « vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Pas vous serez des spectateurs, pas vous serez des gens motivés, pas vous serez des gens peut-être une fois de temps en temps. Non, vous serez mes témoins. Alors regarde ton voisin, dis-lui ne sois pas un spectateur ce matin. Les filles se sont rendues compte, mais en fait on dit spectatrice en fait pour une fille. Regarde un autre voisin, dis-lui toi aussi rentre dans le match. On est dans cette série, puis Alessandra l'a dit juste avant, notre église, mon histoire. Notre église, mon histoire. Et vous savez, il y a une phrase qui est très répandue, puis qui a gagné en trend ces dernières années, en particulier avec le Covid, c'est cette phrase qui dit « l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. » Puis cette idée, elle est vraiment répandue, elle est vraiment, comme je l'ai dit, renforcée. Puis je pense qu'il y a une partie de cette idée, de cette phrase qui est vraie. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus avait à l'esprit quand il a dit « je bâtirai mon église ». Quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », excuse-moi, mais il n'avait pas à l'idée juste ta petite personne. Quand il a dit « je bâtirai mon église », il ne s'est pas dit « c'est juste toi et moi, j'espère vraiment, je vais te bâtir mon gars ». Il avait quelque chose de plus large sur son cœur. Et l'église, elle est composée de chacun de nous. Mais c'est aussi un tout qui va bien au-delà de ses murs. C'est un édifice bien plus grand. Et nous sommes appelés à être les pierres vivantes, ça c'est des mots de la Bible, hein, les pierres vivantes de cet édifice. Et chez Home, on a à cœur de rappeler que nous ne sommes pas la finalité de l'histoire, nous en tant qu'individus. Puis c'est important qu'on s'en rappelle parce que dans cette nouvelle série, c'est ça l'objectif, c'est de maintenir cette tension entre l'édifice global, notre église, et au sein de cet édifice global, mon histoire. Mais on commence par notre église. On commence par le « nous », on commence par la chose globale que Dieu avait, que Jésus avait à l'esprit quand il a dit « je bâtirai mon église ». Et on réalise que cette grande histoire, elle se compose de plein de petites histoires. Notre église, mon histoire. Et du coup, on veut encourager les gens à réaliser leur pleine destinée en s'appuyant sur ce que nous vivons et ce que nous construisons ensemble. Je vais le dire autrement, je suis convaincu que tu as une histoire à développer, que tu as une vie, que tu as une destinée, qu'il y a quelque chose d'unique avec toi. Mais je suis convaincu aussi que tu dois t'appuyer sur quelque chose de plus large afin de pouvoir rentrer là-dedans. Il y a des mots qui sont répandus dans le Nouveau Testament et quand on parle de donner sa vie à Jésus, on parle notamment d'une nouvelle naissance. Et pour moi, c'est la même réalité que celle de la famille. Puis si vous êtes familier ici, régulier ici, vous savez qu'on parle constamment de l'Église en tant que famille. Mais vous voyez, quand un enfant arrive dans une famille, les parents sont là, je me réjouis de ce que tu vas vivre, je me réjouis de ce que tu vas devenir. Puis des bons parents, la seule chose qu'ils veulent, c'est que l'enfant devienne une merveilleuse personne. Mais jamais ils se sont dit, je me réjouis de ce que tu vas devenir et du coup, j'espère qu'on n'aura aucune relation, toi et moi. Tu sais, deviens la meilleure personne que tu dois être. Débrouille-toi, petit bébé. Tu sais, aucun parent qui fait ça. Si un parent faisait ça, n'importe qui lui dirait, c'est dangereux ton histoire. T'es voué à l'échec dans cette idée-là. Et pourtant, dans l'église, on est là, c'est génial. Et puis, dès que l'église veut être un petit peu, tu sais, il faut qu'on soit ensemble. Ah, mais non, mais c'est mon histoire, c'est moi l'église, c'est je suis l'église. L'église, c'est moi, l'église, c'est toi, on n'a pas besoin de passer du temps ensemble. Puis là, non, c'est pas tout à fait exact. Alors, le titre de mon message, tu pourras le deviner, c'est « Ne reste pas dans les gradins ». Mais je me suis dit que si on met ça sur Internet, ce sera bizarre. Alors, j'ai donné un deuxième titre, qui fait plus chrétien. « Une église qui envoie ». Mieux ça. Hein. Une église qui envoie. On va prendre la Bible, on va lire un passage, on va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4 et on va lire les versets 11 à 16. Je vous laisse le temps pour aller dans vos Bibles. Je crois qu'il y a une force et une puissance à nous-mêmes lire et puis je sais que vous êtes plusieurs à avoir vos Bibles alors que ce soit numérique ou le papier, sortez vos Bibles, je vous en prie. Si vous n'avez vraiment pas de Bible, pas de panique. Tout d'abord, le texte va s'afficher, mais en plus de ça, c'est une belle journée, vous avez un cadeau, venez vers nous à la fin, on vous donne une Bible. Ce serait dommage que vous repartiez sans Bible. Éphésiens 4, les versets 11 à 16, je vais les lire maintenant. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors là, tous mes amis des stabilos, c'est là qu'il faut sortir vos stabilos. All right? C'est là qu'il faut sortir vos stabilos et il faut souligner ce verset-là. Écoutez bien, je relis le verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si on pouvait juste méditer un temps, s'arrêter puis laisser ce texte nous parler, il est tellement riche ce texte. Paul est en train de donner non seulement une image de ce que l'Église est appelée à être, mais il est en train de donner aussi le but. En donnant cette image, il donne le but de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église existe? Quel est le propos de l'Église? Et tu verras, si tu prends simplement ça en disant c'est ça l'Église, c'est impossible que l'Église ce soit que toi. C'est impossible. Alors, petite paraphrase rapidement. Il donne au début ce que certains appelaient différents ministères ou différents dons, charismes, des réalités. Il parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Puis ensuite, il nous dit, c'est le verset que je vous ai demandé de souligner, le but de ça, c'est de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps. D'accord ? Donc il dit, oui, il y a des rôles différents avec des fonctions différentes, mais ça, tout cela ensemble travaille dans un seul but, c'est l'édification. Puis quand vous continuez, il y a toujours cette dualité, cette tension. En même temps, chacun est appelé à grandir. Il y a des expressions comme devenir mature, à la maturité de l'adulte, à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est chacun individuellement. Mais si on fait ça ensemble, c'est tout le corps qui deviendra bien coordonné et qui pourra faire ce qu'il est appelé à faire dans un ensemble. Il y a toujours cette tension. Il est magnifique ce texte. Bref. J'ai dit que je n'allais pas faire trop long ce matin. Un tout petit peu de contexte pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible ou simplement qui découvrent ce merveilleux livre, parce que c'est un livre qui n'est pas simple. Le gars qui écrit ces mots, il écrit en fait une lettre, il s'appelle Paul. C'est ce qu'on appelle un disciple tardif, c'est-à-dire qu'il est venu très peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'était pas disciple de Jésus de son vivant, mais peu de temps après, quand l'Église a commencé littéralement, alors que lui était une personne qui persécutait l'Église, il a eu une rencontre avec Jésus surnaturelle, il a donné sa vie à Jésus, et puis il a commencé à servir Jésus par après. Et puis il a beaucoup voyagé. Et puis quand il voyageait, il passait souvent du temps dans des endroits, puis il mettait en place des communautés. Et il a passé justement du temps à Éphèse. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller lire, c'est dans Actes au chapitre 19 que vous voyez littéralement Paul à Éphèse et passer du temps. Et on estime qu'il a passé environ 2 ans là-bas à Éphèse. Donc quand il écrit la lettre, il faut comprendre qu'il écrit à des gens, en tout cas un bout de ces gens-là, il les a connus, il a passé du temps avec eux, il a vécu avec eux. Et quand il leur écrit cette lettre, on sait qu'il est en prison. Et il écrit en prison, et la lettre, si vous l'étudiez plus en détail, Éphésiens, il y a 2 grandes parties dans Éphésiens. Il y a Éphésiens 1 à 3, puis il y a Éphésiens 4 à 6. 2 grandes parties assez équilibrées. Et quand il écrit la première partie, Éphésiens 1 à 3, il explique l'histoire générale et le projet de Dieu qui trouve son sens en Jésus. C'est comme s'il leur rappelle un petit peu, voilà, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous rappelle un petit peu tout ce qu'il en est. Et puis ensuite, il arrive au chapitre 4. Et le chapitre 4 commence par, en grec, c'est un mot, j'ai plus le mot maintenant, j'ai plus dans mes notes, mais ce mot a été traduit par une expression qui est « c'est pourquoi ». Quand tu commences le chapitre 4, littéralement dans la première phrase, tu as l'expression « c'est pourquoi ». Donc tout ce qu'il a raconté jusqu'ici, donne du sens à ce qu'il va expliquer à partir d'ici. Et il commence le chapitre 4 en disant « c'est pourquoi ». Puis littéralement, dans le chapitre 4, ce qu'il est en train de dire, c'est « à cause de la grande histoire, à cause du projet de Dieu qui a été accompli par Jésus-Christ, nous devons vivre d'une certaine façon ». Tout ça ne fait du sens. Tout ce que je vais vous dire à partir de là ne fait du sens que si vous comprenez le projet de Dieu. Donc c'est important de réaliser ça. Il explique tout le projet de Dieu, puis il dit maintenant, à la lumière de ce projet, voilà comment nous, on doit fonctionner. Et c'est là que c'est fascinant, parce que pour Paul, ça commence dès le début du chapitre 4 avec comment est-ce qu'on fonctionne en Église. Il dit, si tu comprends le cœur de Dieu, que personne ne se perde, qu'il voulait être en relation avec l'humanité, que ce n'était pas possible à cause du péché, qu'il a mis à part un peuple afin que ce peuple puisse porter une bénédiction, que cette bénédiction s'accomplit en Jésus-Christ, alors toi, tu dois vivre d'une certaine façon. Et la première chose qu'il dit, c'est parlons de l'Église. C'est comme si Paul avait cette idée que l'Église était la famille. Et il dit, ça c'est le cadre, le contexte dans lequel tous ces disciples de Jésus vont évoluer. Je sais, ça heurte certaines personnes, mais au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop qui veulent faire l'Église seule avec un ordinateur. Seul, je prends YouTube, je choisis ma playlist à moi, puis c'est mon Église. Mais ce n'est pas comme ça. En tout cas, dans la Bible, ça ne se défend pas du tout. Et pas seulement parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Pour Paul, c'est une évidence. Si tu deviens chrétien, si tu donnes ta vie, tu sais quoi, tu vis avec d'autres personnes qui croient à ces choses-là. Puis ça devient ta famille. Puis c'est au sein de cette famille qu'on évolue. À cause de la grande histoire du projet de Dieu qui a été accompli par Jésus-Christ, nous avons notre histoire. Et cette histoire commence avec l'Église. Et c'est là qu'on voit ce qu'on vient de lire ici. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Et là, il devrait y avoir quelque chose en toi qui dit « ouf ». Parce que si on était tous comme toi, ce serait vraiment boring. Mais en plus de ça, on ne pourrait pas faire ce qu'on est appelé à faire. Et c'est ça qui est magnifique. Paul, il dit, on n'est pas tous les mêmes. Oui, il y a une unité. Et oui, il y a besoin d'avoir cette unité. Mais il n'y a pas uniformité. Il y a unité, mais il n'y a pas uniformité. Et chacun a un rôle à jouer. Toutes ces choses que je vous dis, vous les lisez, on vient de les lire ensemble. Chacun a un rôle à jouer. Alors qu'on mûrit, alors qu'on grandit, on rentre un peu plus dans notre rôle. Et dans l'Église, il y a différents rôles, mais le but, c'est de pousser l'ensemble vers la maturité. Ces dernières années, peut-être vous avez été dans différentes églises, il y a eu beaucoup, beaucoup d'emphase sur les premiers versets qu'on a lus ici. Moi, j'étais fatigué. Les gens me disaient, est-ce que toi, t'es plutôt apôtre, t'es plutôt prophète, t'es plutôt évangéliste? Et j'étais là, on s'en fiche, en fait. On s'en fiche. Et les gens, alors, pensaient que j'étais hérétique. Ils se mettaient à prier pour moi. Puis j'étais là, non, mais parce que continue, en fait. Le but, c'est pas tellement qu'est-ce que moi je suis, c'est pas autour de moi, c'est pas ma petite personne. La vraie question, c'est est-ce que le peuple grandit? Parce qu'il dit qu'il y a toutes ces choses-là pour que le peuple grandisse. Alors à la limite, si tu n'es pas tout à fait convaincu de savoir lequel t'es, mais que le peuple grandit, continue, c'est bon. Mais si on a tous un beau titre et puis que le peuple ne grandit pas, on passe à côté, les gars. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important ton histoire, je suis en train de te demander est-ce que le peuple grandit? Le but de l'Église, c'est qu'au travers des différents ministères qui lui sont donnés, elle permette à chacun de grandir en maturité, de ressembler à Christ, afin de pouvoir entrer dans son appel. Et ça, c'est tout ce qu'on a essayé de vous montrer avec cette série. Le premier message nous disait, on est tous appelés. Le deuxième message nous disait, l'Église devrait tous nous équiper. Et avec ce dernier message, et je lui l'ai dit juste avant, vous l'avez dit à votre voisin, on est tous appelés à entrer dans le match. On est tous envoyés. On est tous censés jouer notre match. Et c'est important que tu le saches, ton match n'est pas le même que le match de ton voisin, n'est pas le même que mon match à moi. Mais tu dois rentrer, tu ne peux pas être juste un spectateur. Et être chrétien, ce n'est pas juste choisir où tu es dans le stade et puis agir en fonction de où tu es dans le stade à l'église. Alors quel est le match? Puis j'aimerais juste commencer ici en disant, je vous demande pardon, en tant que responsable d'église. Parce qu'à l'église, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a fait très très mal, non intentionnellement, hein, vraiment accidentellement quasiment. C'est qu'on a fait, au travers de nos structures, on a fait croire aux gens que le but c'était de servir à l'église. On a fait croire aux gens que s'ils ne servaient pas à l'église, ce n'étaient pas vraiment des bons disciples, que ce n'étaient pas vraiment des bons chrétiens, que s'ils ne savaient pas lesquels des cinq qu'on a cités avant ils étaient, ils passaient à côté de leur vie, tu sais. Puis j'ai envie de te demander pardon. Parce que entrer dans ton appel, c'est pas trouver ta place dans l'église de façon opérationnelle. Ça, c'est un petit bout de l'église. Mais l'église, elle doit être ce grand corps qui est capable de faire ce que Dieu lui demande de faire. Souvent, nos modèles, ils ont fait penser que le but du christianisme, c'était d'être ici sur scène et de prêcher. Puis souvent, on a grandi avec cette idée, encore une fois, sourde. Hein, personne ne l'a jamais vraiment dit depuis la scène. Mais entre nous, on sait qu'on s'est toujours dit que les gens sur scène, ils sont un peu plus sains que les autres. On ne l'a jamais officiellement dit, hein. Mais on a toujours pensé, si un jour je suis sur scène, c'est quel privilège, quel... c'est incroyable. Là, en tout cas, j'aurais touché un bout de mon appel, alors que pas du tout. Souvent, on l'a fait comprendre de plein de façons, puis je vais te donner un tout petit peu un exemple générique. Très souvent, voilà comment on fonctionne dans les églises. Quand tu es nouveau, on te demande de lever la main, puis on te demande, c'est quoi ton prénom? Merci d'être là, bienvenue. On va s'occuper de toi, t'en fais pas. On a peut-être un cadeau, on a peut-être un petit quelque chose, un formulaire à remplir ou quoi, on veut rester en contact avec toi. Donc une fois que tu as levé la main, c'est bien. Une fois que tu es revenu 2-3 fois, qu'on a compris que tu savais où étaient les toilettes, que ça marchait avec un code, alors on passe à l'étape d'après. Là, on dit, il faudrait que tu puisses donner un coup de main. Tu vois, les bonnes personnes donnent un coup de main. Si tu pouvais donner un coup de main, il y a pas mal de choses à faire, peut-être les chaises, peut-être des rangements, peut-être la technique, peut-être les enfants, peut-être quelque chose. Là, il faut que tu donnes un coup de main. Si tu viens régulièrement et tu donnes un coup de main, il y a l'étape d'après. L'étape d'après, c'est qu'il faut que tu ailles dans un groupe de maison. Parce que les bons disciples vont tous à un groupe de maison. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la façon qu'on a de se saluer dans l'église. C'est « Salut, moi je m'appelle Yves, je vais dans le groupe de maison du mardi soir, toi c'est comment ?» Oh, moi c'est Bernard, je suis dans le groupe du lundi matin. Oh, trop bien, j'ai entendu des bonnes choses de votre groupe lundi matin, c'est incroyable. Sois béni Bernard, toi aussi mon frère, merci. Et après passe une autre personne qui s'appelle Alexandre. Je dis, Alexandre, comment tu vas? Ça va? C'est quoi ton groupe de maison? Ah, je sais pas trop. Écoute, il y en a un le mardi, le mercredi, le jeudi. Écoute, celui de Bernard, ils sont assez remplis, mais peut-être qu'il y a une place pour toi. Et on fait comprendre à Alexandre que s'il est bon chrétien, il va dans un groupe de maison. Une fois que tu es un bon chrétien, que tu viens régulièrement, que tu donnes un coup de main et que tu as un groupe de maison, il y a 2-3 choses particulières qui font de toi une élite. Tout d'abord, si tu peux prendre le micro le dimanche matin. Là, si tu peux prendre le micro, la présidence, quelque chose, un petit peu les annonces, quelque chose comme ça, ça veut dire vraiment que tu es quelqu'un de spécial. Si tu peux servir à la Sainte-Seine, si tu peux servir à la Sainte-Seine, là, ça veut dire qu'il y a vraiment une onction sur toi. Puis alors, le top du top, c'est si tu peux prêcher. Encore une fois, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Mais pour quiconque a été un certain temps dans les églises, on l'a un peu ressenti. Je caricature ici, volontairement. Je viens déranger un petit peu nos modèles, volontairement. Mais c'est souvent quelque chose qu'on a ressenti. Et c'est pour ça que je te demande pardon. Parce que le but de l'église ne devrait jamais être que tu puisses prêcher. Le but de l'église, c'est que tu puisses devenir mature afin de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Si c'est prêcher, alors oui, le but, c'est qu'elle te laisse de la place puis qu'elle te donne de la place pour prêcher. Mais si ce n'est pas prêcher, on ne devrait jamais ressentir une pression de « je ne suis pas assez bon chrétien ». À Home, on a même en fait une idée quasiment inversée. Et là, je sais, on choque beaucoup de personnes, mais on est assez convaincu que 97% des gens de l'église, leur appel n'est pas dans l'église. On est convaincu qu'en fait, il y a un petit pourcentage, c'est des idées, c'est des ordres d'idées là sur les chiffres, mais environ 3%, on doit travailler pour vous servir, pour vous équiper, afin que vous puissiez faire le taf à l'extérieur. Ça, c'est une conviction qu'on a ici. Un petit groupe qui est censé servir et qui a justement cet appel d'être, vous vous souvenez de la liste qu'on a lue au départ, afin d'équiper les saints, afin que les saints puissent faire l'œuvre. Imagine un instant, si nous tous autant qu'on est, nos appels étaient là. Qui allait faire le travail à l'extérieur? Nous, on serait en train de se battre pour savoir combien de fois je peux prêcher. Et puis, on devrait faire des trucs où, tu sais, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 18 célébrations par dimanche. Comme ça, chacun peut prêcher, tu sais, au moins. T'sais. On devrait courir après ça, on devrait faire... Non, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on envoie. Le but, c'est qu'on envoie. Le but de l'Église, c'est donc... de permettre à chacun de réaliser qu'il est appelé. En tant que nouvelle créature, tu es appelé. Quand Jésus disait « vous êtes sel et lumière », c'était une réalité qu'il voulait que vous puissiez être sel et lumière dans le monde. Le but de l'Église, c'est d'équiper, rendre les gens capables, les aider à découvrir leur appel, leur don. On en parlait encore hier avec ma femme, mais jeune, environ à l'adolescence, j'ai commencé à aller dans les églises avec ma famille. Et un jour, mon père me dit « c'est bien Yves que tu dises régulièrement oui puis que tu aides beaucoup à l'Église ». Puis j'ai dit pourquoi? Il m'a dit tu verras, ça va t'être utile. Et puis c'est arrivé que j'ai eu le premier exposé à l'école. Et quand j'ai eu le premier exposé, la prof, vraiment, on avait plein d'exposés, toute la classe avait des exposés. Quand j'ai eu mon exposé, la prof a dit, mais c'est incroyable, on dirait que tu as l'habitude de parler devant les gens. Mais oui, mais parce qu'en fait, régulièrement les dimanches, je vais faire les annonces, en fait. Donc je ne suis pas surpris de prendre la parole devant des gens, je n'ai pas peur d'être devant ou quoi, j'ai l'habitude de ça. Et on parlait, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut apprendre en servant à l'église, en donnant un coup de main ou quoi, mais le but n'est pas qu'on soit tous ici à l'église. Alors je termine avec cette phrase qu'on répète régulièrement ici parce qu'on croit qu'elle est vraie et puis parce qu'elle nous touche. Elle vient de Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien qui est décédé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit la chose suivante, « L'église n'est réellement église que quand elle existe également pour ceux qui n'en font pas partie. » Je répète cette phrase, « L'église n'est réellement église que quand elle existe également pour ceux qui n'en font pas partie. » Et quand on dit ça, on ne dit pas simplement « nos programmes d'église doivent exister pour ceux qui n'en font pas partie ». On ne dit pas exclusivement « il faut qu'on fasse une église où ceux qui ne connaissent pas l'église soient accueillis ». On dit « on existe afin de pouvoir être une bénédiction à l'extérieur ». On existe pour toucher là où on doit toucher les différents lieux de la société. Et il y avait un ami qui était convaincu de ça, qui disait tout le temps « je suis fatigué que les gens me présentent comme leur pasteur à tous leurs amis ». C'est à t'arrive quelque part, un moment entre amis, gentiment, puis quelqu'un dit « Oh, regarde, c'est Yves, mon pasteur », puis toi, t'es un peu là, bon. Alléluia, bonjour. Maintenant, je suis étiqueté pasteur, il faut que, oui, comme le dit l'Écriture, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. je sais pas, il y a des choses qui sont attendues de moi, si maintenant, je suis pasteur ou quoi, puis on rigolait un petit peu ensemble, c'est une discussion de pasteur, là. Et il me disait, j'aimerais que les gens comprennent qu'ils sont censés être les évangélistes sur leur lieu de travail. C'est eux qui sont censés être les lumières sur le lieu de travail. Tu ne peux pas toujours avoir... Je ne suis pas un pasteur de poche. Que quand tu as besoin d'avoir d'un coup le coup... Allez, voilà mon pasteur, il va t'expliquer l'histoire. Non, c'est ton job à toi, en fait, de faire les lumières. C'est ton job à toi de changer l'atmosphère où Dieu t'a placé. C'est ton job à toi d'aimer ton voisin. Ce n'est pas mon job à moi. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais moi, mon rêve, c'est que les gens puissent venir ici en disant « j'ai donné ma vie à Jésus à cause de tel et tel, on était ensemble au travail, on discutait à la pause, ça m'a touché, et puis il m'a dit « viens dans la famille ». Moi, j'ai envie de les accueillir en disant « bienvenue dans la famille ». Malheureusement, très souvent, on a l'impression que c'est le job du pasteur. Que le seul moyen pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est qu'il y ait un peu de piano, les têtes baissées, les yeux fermés. Et maintenant, dans l'intimité entre Dieu et toi, lève ta main. Et c'est sûr que si tu penses que c'est le seul moyen de donner, ça ne va jamais se passer au travail. T'sais. On arrive dans un moment de conversation vraiment bon. Si vous pouvez tous baisser les yeux maintenant, je vais juste mettre ma playlist préférée. Merci. On rigole, mais on pense des fois ça. Alors, je vais m'arrêter là. Puis, comme dans les autres messages, ce qu'on avait envie, c'était aussi de faire venir des gens que vous ne voyez pas forcément prêcher ici, pas forcément prendre la parole ici, puis avoir une discussion avec eux, afin qu'on puisse aussi voir, matérialiser un petit peu ce qu'on dit, et puis réfléchir par rapport à ça ensemble. Alors, je vais inviter Fabien à me rejoindre. Vous pouvez l'encourager. Tiens. Merci. Tu vas bien, Fabien ?
Ça va bien, je suis sur scène, donc je gagne des points aujourd'hui.
Tu gagnes des points, c'est ça?
Exactement.
C'est ça, on va s'organiser. Tu passes à la boulette comme point, on va te mettre les points supplémentaires sur ta carte. Fabien, présente-toi en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Donc, vous me voyez peut-être souvent derrière avec le Ciro. Je suis papa de deux filles qui sont très actives sur la zone Ciro. J'ai aussi Guylaine qui est ma femme et qui m'accompagne aussi. Enfin, on vit en famille ici. Je suis, au niveau professionnel, j'ai plutôt un profil entrepreneur. J'aime lancer des choses. Une personnalité assez créative. Et je ne vais pas trop en dire. Comme ça, vous avez la possibilité de causer aussi avec moi. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, où on ne s'est encore jamais rencontrés. Donc, avec plaisir de se rencontrer aussi, un de ces quatre.
Merci, Fabien. Vous avez entendu, c'est une invitation à aller lui parler. Il ne faut plus être timide maintenant. Fabien, j'ai préparé quelques questions que je t'ai aussi soumises, et puis on verra la discussion, qu'est-ce que ça prend, mais est-ce que toi, tu réalises ou tu vis cette réalité d'être celle et lumière dans ton quotidien? Est-ce que c'est une évidence facile ou difficile pour toi?
Je pense, Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais en tout cas, pour moi, c'est difficile. Parce que, quand on a parlé du cadre d'une église. Une église, en fait, il y a un format. Les gens, ils viennent dans un cadre qui est donné. Et dans la société, dans la vie habituelle, privée, donc on aura, en fait, c'est devenu aujourd'hui, en fait, une zone de protection. En fait, on ne veut pas donner cette partie-là. Donc, c'est vrai que c'est une zone, en tout cas, dans mon cas de pensée, je me dis toujours, mais en fait, comment être celle et lumière au niveau de ma vie privée, au niveau professionnel, surtout qu'on est dans une société où on sent que quand on va toucher un petit peu trop loin, on sent tout d'un coup le pas de retrait. Donc il y a toute une construction en fait qui se fait de confiance, et on n'a pas envie d'être les personnes qui ont un agenda en disant bah en fait j'ai tout prévu, on va faire tant d'étapes, bah, la même chose, hein. Je t'invite à tel endroit, on crée la relation, puis maintenant c'est le moment de, parce que le but n'est pas là en fait dans la réalité.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que dans une statistique, dans une étude que j'avais lue, justement, c'était un petit peu la perception des non-chrétiens, des chrétiens. C'est qu'ils disaient, les chrétiens sont des hypocrites, ils viennent toujours avec un agenda. Mm-hmm. Donc quand ils sont amis avec nous, il y a justement indirectement ce type d'étape, et puis quand il y a suffisamment la confiance, c'est bon, viens maintenant à l'église avec moi, ou, mm-hmm. puis on se sent pris au piège. Du coup, comment est-ce que toi, si tu as deux, trois exemples, ouais. comment toi tu l'as vécu, cette réalité d'être celle et lumière, d'aller au-delà de ce défi, de ce pas de retrait que tu peux voir des fois chez les gens, comment est-ce que toi t'arrives à le vivre?
Ben, je réfléchissais, parce que la question je l'avais reçue, puis je réfléchissais en me disant, mais en fait, c'est les lumières dans le témoignage, j'ai l'impression que pour le coup, je suis pas très bon dans ce cadre-là. Je suis pas quelqu'un qui va régulièrement trouver en fait la manière d'intégrer en fait Jésus. Et en fait, ça me correspond pas trop dans le style, et c'est plus les zones en fait où Dieu a transformé ma vie, en fait, qui viennent se retranscrire dans la mission qui m'ont été donnée. Donc, par exemple, une mission, c'est l'entreprise, donc c'est le milieu professionnel. Et quand on a son entreprise, on a aussi une autorité qui est donnée différente. Et un aspect que Dieu a amené, c'est la restauration des zones de ma vie, donc la restauration aussi du monde professionnel, en disant, en fait, cette zone-là, si on regarde, en fait, quand il vient, Dieu dans la relation, en fait, il vient restaurer premièrement avant de pouvoir, yes. en fait, nous permettre d'aller. Et le monde professionnel, en fait, il y a tellement de choses qui se jouent et tellement d'enjeux. Donc, c'est restauration, en fait, de cet endroit pour, en fait, arriver à donner un cadre où la personne peut être qui elle est. La personne peut développer son talent, parce qu'en fait, on a tous des talents, en fait, à avoir. Mm-hmm. Mais si on n'est pas bien dans nos baskets, c'est très difficile à les amener. Et en fait, de là, en fait, pouvoir créer des éléments qui sont la représentation de qui il est. Donc, en fait, son environnement, moi, je sais que chaque fois qu'on recrute quelqu'un, en tout cas, ces dernières années, les gens, quand ils arrivent, ils disent, mais en fait... je suis sur le cul, quoi. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir... j'avais jamais vécu ça. Là, encore dernièrement, quelqu'un qui me disait, mais en fait, cet endroit, en fait, je l'ai rêvé, mais en fait, je croyais qu'il n'existait plus. Et aujourd'hui, je le retrouve et ça me met une pression. Je dis, mais alors, pas de pression d'abord. Mais c'est aussi un endroit où, en fait, on voit que ce n'est pas grâce c'est grâce à Dieu qui vient donner, en fait, des révélations, qui vient transformer ces endroits et qui sont, en fait, révélateurs. Après, la question, c'est pourquoi c'est comme ça. Je peux expliquer, en fait. Et ça ouvre, en fait, un terrain qui est juste naturel. La porte, elle est ouverte à la discussion.
Incroyable. Incroyable. Je sais, et puis ça, vous irez lui demander un petit peu, mais quand je parle à des gens du même milieu, un petit peu, puis qu'on parle de ton entreprise, le rayonnement de ton entreprise est assez intéressant. Où régulièrement les gens disent justement, mais c'est un endroit, tout le monde rêverait de travailler là-bas parce que ça fait bon vivre dans cet endroit-là, ou bien des gens qui disaient, mais on n'a que des bons échos de leur travail, de ce qu'ils font, de quoi. Donc c'est
on essaye, hein. parce qu'on ne l'a pas tout le temps. Hein.
Pour aller un peu plus loin, du coup, ça, c'est ce que toi tu vis dans ton quotidien, peut-être en particulier professionnel, qu'on a un petit peu touché ici. Mais du coup, quel sens pour toi à l'église plus large? Comment est-ce que toi, tu te dis pas juste, ben, maintenant j'ai trouvé ma mission? Parce que c'est un des risques, hein, quand on entend ce que j'ai dit là, c'est de dire, maintenant j'ai trouvé ma mission, j'ai plus besoin de l'église alors. Ouais. Je suis devenu mature, je me sépare, entre guillemets, ou bien je quitte. Si on reprend l'image de la famille, au moment où l'enfant devient adulte, mature ou quoi, ben, il quitte le cocon familial, il y a toujours une relation qui existe, en tout cas on l'espère. Mais toi, comment est-ce que tu as l'impression que l'église fait encore du sens pour toi, du coup?
Bon, ça, c'est un chapitre... Là, j'avais tellement de routes de réponse pour réfléchir, parce qu'en fait, l'Église, pour moi, c'est un énorme chapitre dans lequel j'avance encore régulièrement. Peut-être juste pour la petite histoire, quand j'ai rencontré Jésus, pendant 10 ans, j'étais à fond dans tout ce qui était l'Église en général. Donc, investi toute mon énergie, comme il y a côté entrepreneur, beaucoup de projets, personnes connues, jusqu'à que j'arrive au constat, je me dis, mais en fait, je connais que des chrétiens, quoi. En fait, mon réseau, je touche personne autour, et je me dis, mais en fait, c'est comme s'il manquait quelque chose. Et ensuite, il y a eu l'étape d'entreprise où, en fait, l'énergie s'est reportée à un autre endroit, et évidemment, il y a une déconnexion qui se fait, et d'un coup, tu es à fond là-dedans, puis tu dis, mais en fait, il est où le sens? Il manque quelque chose. Et c'est comme si, en fait, les deux pendants étaient nécessaires. Et je ne vais pas vous faire tous les chapitres d'église, comment on a réfléchi, comment on a essayé de tester, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, et je pense que Dieu m'a amené à rendre compte que l'endroit aussi, parce qu'il y a, il y a l'église sous la forme relationnelle, puis l'endroit aussi territorial, en fait, était quelque chose d'important et de nécessaire. Parce que dans la réalité du quotidien, tu investis énormément d'énergie, tu vas chercher vraiment la relation individuelle. Donc là, on est vraiment dans ce côté où je suis l'église, mais dans la notion individuelle, mais tu as besoin en fait des autres autour de toi. Et le fait de reconnecter en fait avec un endroit, il est essentiel. Parce que ces dernières années, on avait vécu le mode église. On a essayé justement d'autres formats et on s'est rendu compte que petit à petit, face à la quantité d'informations, face à la quantité de choses qu'on vit, qu'on échange, en fait, il y avait quand même une déconnexion et d'un coup, tu es confronté en fait, sur des zones de valeur. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question,
non, mais, oui.
Mais pour dire, pour moi aujourd'hui, l'endroit est essentiel, mais aussi évidemment la relation en fait, avec les différentes personnes. Et ça, c'est large parce qu'en fait, on a une connexion. Enfin, c'est incroyable quand même. On a une connexion. Tu vas aux États-Unis, tu vas n'importe où, en fait, tu vas rencontrer et tu as une zone de valeur similaire. Et aujourd'hui, on est dans une société où on n'arrive pas forcément à connecter parce qu'on a des zones de valeur qui sont tellement individualisées que ça devient extrêmement difficile de donner la confiance.
J'aime personnellement beaucoup ta réponse. Je ne sais pas si les gens ont aimé ta réponse, mais je pense qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. Et on veut remercier Fabien. Fabien, je te remercie. On va finir ici. Tu peux le mettre. Regarde, il y a un pied juste là-bas, juste après le rideau. Merci beaucoup. J'espère que ça a fait la même chose pour vous. Moi, ça me donne envie de continuer la conversation avec Fabien. Alors, je connais Fabien, c'est bien. Il s'est ouvert aujourd'hui et il a commencé en disant, je ne dis pas trop, comme ça vous pouvez venir me voir. Il a donné aussi un petit tips, les filles, le bar à sirop. Donc, si vous ne savez pas trop où aller, il y a Guylaine aussi juste à côté de lui. N'hésitez pas à aller les rencontrer et découvrir. Mais c'est vrai que c'est une des personnes avec qui j'aime beaucoup réfléchir sur ce genre de sujet-là, un petit peu ces tensions, comment on vit ça et quel sens ça a. Donc, merci beaucoup, Fabien. Vous avez vu l'équipe de louanges revenir. C'est-à-dire qu'on arrive gentiment au bout. Notre église, mon histoire. Puis je l'ai dit, si tu as été avec nous durant cette série... Si tu n'as pas été avec nous, tu peux réécouter les autres messages, si jamais. Ils sont disponibles en ligne, de plein de façons. Mais Cindy, qui a ouvert cette série, a parlé du fait qu'on était tous appelés. Que ce n'était pas une réalité de quelques-uns. À partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, à partir du moment où tu reconnais Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, il te considère comme membre de sa famille. Et sa famille, ce n'est pas... une bande de spectateurs. Sa famille, c'est une bande de témoins. C'est une bande de témoins là où il les place. Et puis, peut-être au passage, que pour toi, être envoyé, c'est trouver ta place puis prendre ta place à l'église. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont appelées à l'église. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on est tous envoyés puis la majorité d'entre nous, ce sera en dehors de l'église. Et c'est tout à fait OK. Avec le deuxième message, c'était Biula qui parlait comment l'Église nous équipe, comment Dieu utilise l'Église comme lieu d'équipement. Puis là aussi, c'est possible de le réentendre. Et moi, je voulais conclure en te disant, en tant qu'Église, on veut être une bande d'envoyés, on veut être une plateforme d'envoi, un lieu où les gens partent. C'est être une minorité qui va rester à l'intérieur, mais c'est aussi possible. Et la majorité, c'est vous partez. Et puis, Fabien est un exemple de ceci, mais il y en a d'autres aussi à qui, quand on a commencé à cheminer ensemble, j'ai dit... Dis-nous comment nous on peut te servir en tant qu'église. Dis-nous qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Parce que ce que vous faites au quotidien, et vous êtes beaucoup hein, comme lui, ça demande beaucoup de travail. Je vais te donner des exemples. Un exemple ici qui me touche moi personnellement, il a parlé des enfants. Quand des parents viennent avec des enfants, c'est des gens qui ont l'habitude, ils ont toute la journée des enfants. Ma femme a 4 enfants à la maison et elle ne travaille pas, donc elle est tous les jours avec 4 enfants quasiment. Quasiment parce que les grandes sont à l'école. Il y a 2 possibilités de faire en tant qu'église. La première, c'est de dire elle a une bonne expérience avec les enfants. On va lui proposer d'aider à l'enfance. Parce que les bons chrétiens servent. Mais l'autre approche, c'est de se dire ce que tu fais auprès de cette prochaine génération, avec les défis de ce que ça veut dire que d'être un enfant qui va à l'école, il parlait avant des valeurs, de tout ça, et puis toi, t'es censé être un rempart, un lieu de sécurité pour ces enfants-là. L'autre option, c'est de dire comment est-ce que nous, en tant qu'église, on peut te servir, toi ? Comment est-ce que nous, on peut t'équiper afin que tu puisses continuer à faire ce job pendant des années? Parce qu'être parent, c'est un job à plein temps. Mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui sont dans des postes, quel que soit ton poste, comment est-ce que nous, on peut te servir? Et c'est pour ça que régulièrement ici, on parle plutôt de contribuer à la vie de famille plutôt que de servir. Une minorité sert, puis donne du temps, puis on a du monde qui fait ça. Mais une majorité, c'est juste la contribution. On contribue à la vie de famille. J'ai commencé avec une image de sport, alors j'aimerais terminer avec une image de sport. J'ai commencé avec cette image de, des gradins, et puis comment est-ce qu'on peut être situé, et puis comment ça peut se retrouver dans l'église. Puis c'était un gars qui est connecté avec Jeunesse en Mission, qui s'appelle Daryl Miller, qui a donné cette image. Et puis quand il m'en parlait, j'étais vraiment, elle est incroyable cette image, je vais te la voler. Il m'a dit, s'il te plaît, vole-la. C'est ce qu'on se dit entre prédicateurs toujours, vole mes idées, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'elles doivent se répandre. Il disait, l'église, c'est comme le vestiaire à la mi-temps du match. Ta vraie foi chrétienne, là où elle est challengée, là où tu dois travailler, c'est du lundi au samedi. Puis tu dois la vivre, et puis il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux, il y a plein de trucs qui viennent te chercher, et puis des valeurs qui sont choquées, des choses. Puis quand tu arrives à l'église, c'est le temps de la mi-temps. Et pour ceux qui ont fait du sport, vous voyez ce que je veux dire, c'est le temps où on regroupe tout le monde. Il n'y a plus le chrono qui passe, il n'y a plus, puis on dit comment ça va chacun. Vous allez bien, vous êtes bien là où vous en êtes, c'est bon, ça fait toujours du sens. Puis peut-être on ajuste un petit peu la stratégie, on te donne peut-être des clés nouvelles au travers du Saint-Esprit pour des stratégies nouvelles. Et combien d'entre vous c'est déjà arrivé, vous venez à l'église avec un souci, une question, ça vous taraude, vous ne savez pas comment faire, puis vous repartez en disant j'ai une idée maintenant. J'ai une idée. Puis ce n'est pas forcément parce que ça a été prêché, c'est parce que le Saint-Esprit est présent au milieu du peuple. Et d'un coup vous dites je sais comment je vais y aller maintenant. Je m'en retourne au travail, je sais comment je vais. J'aime beaucoup cette image-là. Alors si on doit rester dans le sport, ne soyez pas des spectateurs, mais voyez ça comme le vestiaire de la mi-temps. On se met ensemble, on met les yeux sur Dieu, on est équipé, on est ressourcé, puis comme ça on peut repartir dans notre match à chacun. Ne soyez pas spectateurs, mais entrez sur le terrain. Alors qu'on va prendre un temps de louange, puis encore nous attendre à Dieu, et puis lui laisser encore lui nous parler, j'aimerais vous inviter à vous lever, et j'aimerais simplement prier avec vous pour terminer. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous équipés et nous sommes tous envoyés. Seigneur, voilà, on est devant toi maintenant. On connaît cette réalité d'être sel et lumière, et alors qu'on est à la Pentecôte qui a marqué comme le début, tes disciples que tu avais envoyés à l'ascension, ils attendaient cette puissance qu'est le Saint-Esprit, et ça a été le début d'un envoi. Je te prie Seigneur que ce matin ce soit pour nous tous aussi le début d'un envoi. Un envoi où on réalise l'appel que tu as sur nous, ou peut-être on clarifie l'appel que tu as sur nous, ou on se ressaisit de l'appel que tu as sur nous. Je te demande, Seigneur, en particulier pour tous ceux qui se sont sentis comme moins importants, pas forcément sur le terrain, viens Saint-Esprit, parle-leur maintenant. Dis-leur, j'ai aussi un projet pour toi, un projet qui dépasse le titre, un projet qui dépasse la fonction. Pour tous ceux qui se sont peut-être, vous en êtes voulu, vous êtes dit, mais je ne suis pas assez bon chrétien, parce que si, parce que ça... Réalise que, en fonction de ton appel, peut-être la seule chose qui vaut la peine, c'est d'être au milieu de nous. Et que tu redécouvres ce que ça veut dire le ministère de la présence. Et que tu laisses ta présence être aussi renouvelée par nos présences et surtout par la présence de Dieu. Seigneur, je te prie qu'on puisse être une église pour ceux qui n'y vont pas. Une église qui ne cesse de réaliser que d'être mature en toi, c'est d'être un de tes témoins, là où tu nous as placés. Alors Seigneur, voici ma vie, mes dons, mes talents, mon temps. Envoie-moi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont d'accord avec cette prière peuvent dire avec moi. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.